Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Stéphanie Duncan.
A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? Aurait demandé Louis XVI avant de monter à l'échafaud.
Partis en avant !
Nous partirons ce soir sur les traces de La Pérouse, ce grand explorateur du siècle des Lumières qui fit naufrage sur l'île de Vanikoro en 1788. À ce soir, 21h. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bataille de chiffres. Nicolas Sarkozy, d'après les manifestants, 1m40. D'après la police, 1m80.
Oui, salut Daniel Mermet et toute ton équipe. Voilà, nous sommes à La Rochelle. Toujours beaucoup de monde. Toujours beaucoup de monde. Salut.
Bonjour Daniel, ici Lille. Ben, je pense que France Inter se trompe quand il annonce à longueur de journaux que la mobilisation s'essouffle. C'est tout à fait le contraire. Et en pleine vacances, nous sommes particulièrement surpris de la densité de la manifestation de Lille. Salut.
Acheter des actions d'assurance retraite privée vendues directement par Guillaume Sarkozy, Médéric Malakoff. Acheter des actions d'assurance retraite privée vendues directement par Guillaume Sarkozy, Médéric Malakoff. Grosse déduction fiscale pour les adhérents, gros dividende pour les actionnaires, gros déficit pour les finances publiques. Acheter des actions d'assurance retraite privée vendues directement par Guillaume Sarkozy, Médéric Malakoff. Et dans 6 mois, on refait le coup avec les assurances privées, prévoyance, dépendance. Normalement, on ne devrait pas avoir 3 millions d'invalides qui manifestent dans la rue. Ou alors là, vraiment, c'est que vraiment, ils en veulent au Sarkozy.
Ben Laden menace la France, l'appel de Ben Laden est authentifié. Mais duquel Ben Laden ? Parce que à chacune de ses 4 dernières apparitions, dûment authentifiées, à chaque fois il a changé de tête. Il n'a plus la même barbe, il n'a plus les mêmes yeux, il n'a plus le même nez, il n'a plus la même gueule. Donc de qui se moque-t-on encore ?
C'est pas que nos retraites, elles coûtent trop cher. C'est qu'elles peuvent rapporter gros aux actionnaires. C'est pas que nos retraites coûtent trop cher. C'est qu'elles peuvent rapporter gros aux actionnaires.
Oui, bonjour Daniel Mermet, bonjour des AMG. Je vous appelle de Saintes, sous-préfecture de Charente-Maritime. Attention, mesdames et messieurs les journalistes, au vocabulaire que vous emploierez ce soir. L'essoufflement n'est pas visible à Saintes. Pourtant, les Charentais sont des gens calmes. Il y a énormément de monde, énormément d'ambiance à Sainte cet après-midi. Allez, bon courage à tous.
Je suis Paul de Paris, j'ai 65 ans, retraité de l'éducation encore nationale. Il y a encore belle manif à Paris, ils peuvent nous raconter ce qu'ils voulaient, ils avaient du monde. Moi, sur mon petit parapluie de toutes les couleurs, j'ai affiché le slogan suivant. Mai 2010, réforme des retraites en Bolivie, on passe de 65 ans à 58 ans. Le gouvernement français a des leçons de Morales, ou de morale, comme tu veux, à recevoir des travailleurs boliviens. Bis à vous, venceremos, rendez-vous à la prochaine manif.
Hier matin, alors que les manifs faisaient le plein, qui était l'invité sur France Inter ? Christine Lagarde. Formidable Christine Lagarde. Avec la langue qu'elle a, en voilà une qui croit se chauffer tout l'hiver. D'abord, elle est rassurée que la réforme soit passée, parce que c'était la seule façon de pérenniser notre retraite, si chère à notre président, le sien surtout. Pour Christine Lagarde, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est l'économie. Mais le social aussi est très important. D'ailleurs, elle le dit, Christine, les commissions européennes sur les questions sociales, elles évoluent. Bon, elle ne connaît rien des précédentes, mais elle le voit, ça évolue. De même, elle ne connaît pas non plus le nom de ses collaborateurs qui enquêtent sur son ministère. Mais comme elle le dit, Christine, c'est tellement grand, Bercy, on ne peut pas connaître tout le monde. Christine Lagarde, c'est même plus « je parle pour ne rien dire », c'est « je parle pour dire que si je ne disais rien, ça voudrait dire que je ne veux pas parler pour ne rien dire, et ça, il faut que je le dise ». Ah, c'est pas simple d'être ministre de l'économie, surtout le matin à France Inter, un jour de mobilisation. Moi, j'ai hâte qu'il y ait une nouvelle grève. On n'écoutera que de la bonne musique. Et ça, c'est une bonne programmation. C'était de la part de Pascal, de Lyon.
Bon, j'ai été bouleversé par ce reportage diffusé aux 13h de France Inter de ce mercredi 27, où on voyait un riche qui a une belle voiture et qui ne peut même pas en profiter parce qu'il ne peut pas faire le plein. Et vous savez quoi? Il va être obligé d'aller voir un psychologue. Alors j'ai dit, les grèves, ça suffit. Est-ce que vous voulez que tous les riches finissent chez des psychologues? C'est intolérable. Ça, arrêtez les grèves maintenant.
Ouais, il a raison, le mec qui a appelé avant, là. Il commence à nous gonfler, les grévistes. Il y a des mecs qui crèvent de faim partout dans le monde. Il y a la misère, la maladie. Les mecs ont la sécu, les écrans plats, la télé, le téléphone, tout ce qu'ils veulent, des bagnoles. Et ils bloquent tout, ils n'ont pas conscience, c'est malheureux. Allez, salut, la mission à plus, ciao.
Oui, bonjour, c'est Michel à la travail. Vous entendez peut-être du bruit, là, dernièrement. Il s'agit d'une manifestation, principalement, de NPS et de Sud. Nous nous trouvons actuellement au siège de Médéric, voilà, chez le frère de Nicolas Sarkozy, un de ceux qui devraient profiter de la réforme des retraites. Voilà, nous sommes à peu près 150 personnes qui occupons actuellement le siège Médéric, voilà. Il y a de l'ambiance, les policiers viennent arriver, nous sommes bloqués, voilà. Peut-être que quelques journalistes vont daigner venir, on les attend. À bientôt, ciao.
Mélange traduit qu'il s'en aille en espagnol, je suppose, j'y connais rien, mais je vais le traduire en ch'timi. C'est vrai, il a raison qu'il s'en aille tétartous.
Tant que je pourrais traîner mes galoches, je fredonnerai cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas. Que toi, chante pour des brunes, moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. À qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
C'est vrai que ça ressemblait un petit peu à ça hier dans les rues de Paris, à la manif, dans cet automne parisien, cette chanson, cette très très belle chanson de Ferrat. Toup. Petit chouïa de mélancolie quand même, et même pas du tout ailleurs. Il y a des tas d'endroits où on n'a pas du tout perdu la patate, où l'envie est là en dépit de journées de grève, de perte de salaire, de fatigue. Dans beaucoup d'endroits, d'après les échos que nous avons reçus en tout cas, eh bien, ça continue, on baisse pas les bras, on n'est pas fatigué. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller dans deux endroits, à Bordeaux, avec Antoine Chao, et puis à Paris, avec Charlotte Perry, pour montrer qu'il n'y a pas que la retraite qui a mobilisé, il n'y a pas que la question des retraites qui a mobilisé autant de Françaises et de Français, et qui continue de mobiliser des Françaises et des Français en grand nombre. C'est bien plus profond, bien plus vaste que ça. On va le voir à Bordeaux avec une perspective historique un peu, parce qu'on a beaucoup ont le sentiment d'être remonté sur la scène, que le peuple français est remonté sur la scène. Il s'inscrit à nouveau dans sa longue histoire. Et puis on va voir que à Paris, depuis 5 semaines, les personnels de l'hôpital Thonon à Paris sont en grève pour le prochain chapitre. Eux, ils sont en avance. C'est la question de la santé. La santé va subir la même chose que ce que les retraites sont en train de subir, c'est-à-dire, voilà, d'une façon ou d'une autre, la privatisation. Et ça, ils sont un certain nombre à l'intérieur du monde hospitalier à le refuser et à lutter contre. Et ça, c'est évidemment aussi important que la retraite. Bientôt, ce sera l'éducation, à nouveau, qui reviendra probablement. Et d'autres domaines, il s'agit de tout privatiser. Et il s'agit pour tous de résister à cette privatisation, parce qu'après tout, je vous parle d'un endroit qui est encore un endroit public, qui est notre radio. Mais pourquoi est-ce qu'un beau jour, cette radio, peu à peu, ne disparaîtrait pas sous les coups de boutoir de la privatisation? Pourquoi pas? Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h dans la Bassie. J'y suis. Bordeaux-Paris, auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour chers AMG du Champsaur, des Hautes-Alpes et d'ailleurs. Notre prochain Café Repère aura lieu exceptionnellement et en raison des vacances scolaires un jeudi, ce 4 novembre 2010. Nous y parlerons du business de l'eau, de l'intérêt de préserver un véritable service public de l'eau et des conflits d'usage dans nos pays de montagne, en partenariat avec l'association Eau Secours Gapensé, qui introduira le débat. Rendez-vous, comme d'habitude, au Café L'Aguilon, place du Chèvreril à Saint-Bonnet-en-Champsaur, ce 4 novembre à 20h30, et n'hésitez pas à circuler l'information. À bientôt.
Bravo Inès pour ton reportage très sensible auprès des éboueurs. Enfin, beaucoup de choses m'ont beaucoup touché là dans ce reportage. Et alors je voulais te livrer cette formule de Prévert que tu connais sûrement, et que j'ai entendu hier, c'est-à-dire le mardi 26 octobre, peut-être aux 13h. Quand les font grève, les orduriers sont indignés.
Oui, bonsoir, je viens d'entendre à la radio, là, sur Inter, là, les allocutions de M. Mauroy et de M. Marché, à l'époque où la retraite était passée à 60 ans. Je pensais à mon père, qui est mort en 1990. Il a pu prendre sa retraite à 60 ans grâce à la gauche, et il est mort à 65 ans. Si je fais le même parcours que lui, j'aurai 2 ans et demi de retraite, ou à peu près. Donc ça sera gagné pour les déficits de la retraite.
Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Est-ce qu'on va continuer à se battre?
Oui.
Jusqu'au retrait de cette loi injuste, inefficace et inique. On se battra jusqu'au retrait.
On n'est pas fatigué.
C'est la bâche ici, j'y suis, qui n'est pas fatigué, avec Antoine Chao et Charlotte Perry aujourd'hui dans la rue. Demain, on continue.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, on est en route vers Bordeaux, on est dans le sud. On vient de quitter Uzest pour aller à la manif, donc convocation à 11h. Ce jeudi matin, pour manifester de la place des Victoires jusqu'à la place de la Bourse, la bien nommée place de la Bourse,
sur les
quais de Bordeaux. Alors toi Michel, tu habites ici en Sud-Gironde, et il y a beaucoup d'actions en fait. Il y a d'ailleurs un appel à manifester ce soir à Langon, donc on n'a pas l'impression ici que le mouvement faiblit.
Il y a un collectif sur le Sud-Gironde qui appelle à des actions ponctuelles sur différents lieux. Par exemple, on est allé la semaine dernière à la sortie de l'autoroute de Langon pour distribuer un tract, justement pour appeler à la manif de Bordeaux la semaine dernière, et puis mobiliser les gens, quoi. Et après, lundi soir, vu que l'Airbus A380, il vient en barge jusqu'à Langon, et après il prend la route pour aller à Toulouse, il y a eu un appel justement du collectif intersyndical du Sud-Gironde pour un peu bloquer les camions qui amènent l'A380. Bon, on était à environ 70 personnes et on a vu arriver 7 quarts de CRS, un hélicoptère qui a tourné pendant 1h30 au-dessus de nous. Bon, c'est un peu démesuré quand même parce qu'on n'était que 70. Par contre, ce soir, oui, après la manif de Bordeaux, il y a un appel à une manifestation à 18h. Bon, c'est la première fois depuis le début du mouvement qu'il y a un appel à manifester à Langon, où il y a 5000 ou 6000 habitants, je sais pas.
Donc on est au milieu de la forêt des Landes. Alors effectivement, il y a une forte histoire syndicale, hein, avec les ouvriers gémeurs, tous les mots des ouvriers gémeurs. On en avait parlé avec Raymond Lagardère, justement, qui nous avait raconté l'épopée syndicale des trapins, des travailleurs de la GEM. Alors aujourd'hui, à nouveau, les couleurs syndicalistes sont bien défendues ici, dans la forêt des Landes de Gascogne.
C'est une autre organisation, parce que bon, à l'époque, il y avait plus ou moins qu'un syndicat. Enfin, surtout dans les gémeurs, hein, c'était la CGT. Aujourd'hui, il y a ce collectif, mais qui date pas de ce mouvement. C'est un collectif qui dure depuis une dizaine d'années, parce que moi j'y avais été il y a une dizaine d'années. C'est un collectif qui est parti pour la défense des publics en milieu rural et donc qui continue avec des gens de tous les syndicats, de la FSU, de la CGT, de la CFDT, voilà, et qui se réunit ponctuellement et assez souvent pour voir ce qu'on fait sur le coin pour essayer d'amplifier la bagarre. Les services publics, en premier lieu la poste, qui ferme dans tous les petits villages ou qui reste ouvert comme à Uzest 2 heures par jour. Enfin, pour la population, surtout, c'est là où ils voient les orientations politiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire on supprime des emplois partout, on ferme des sites d'accueil du public, on regroupe des services publics pour y parer que ça revienne moins cher. Mais en réalité, le but, c'est uniquement de supprimer des emplois pour y parer, rembourser la dette, au lieu de refaire payer les impôts à tout le monde, puisqu'on sait à peu près tous qu'il y a 150 milliards de banques d'exonération, et surtout dans les plus hauts revenus, quoi.
Alors ce collectif, qui intègre ce collectif aujourd'hui ?
Ben, tout le monde peut l'intégrer, des citoyens, mais disons c'est parti surtout de syndicalistes, quoi, hein. Là, c'est un peu le couvercle, ça déborde, mais pas assez, quoi. Pas assez. Moi, j'ai l'impression quand même que ce mouvement, bien sûr qu'il est en premier lieu par rapport aux retraites, mais moi je sens dans les gens que je vois, avec qui je parle, dans les anciens militants, dans des militants, je sens qu'il n'y a pas que la retraite. Il y a aussi le ras-le-bol général de toute cette politique depuis 10 ans qui remet en cause, et aussi, mais bon, il ne faut pas se fixer là-dessus, aussi un ras-le-bol de Sarkozy et de sa façon de gouverner, qui méprise tout le monde et qui renvoie tout le monde dans ses prisons. C'est moi qui décide et je tiens compte de personne. Et il libéralise tout, hein, que ce soit la fonction publique, même le privé, etc., etc.
Tous motivés ? On n'est pas fatigués !
Fin du bras de fer. Quel bras de fer ? Le bras de fer, oui, entre les syndicats et le gouvernement. Quel bras de fer quand le gouvernement a toute la violence de son côté, le monopole de la violence, de la police, de l'armée éventuellement, quand le pouvoir a le monopole de la violence médiatique à travers tous les liens qui peuvent exister entre ce pouvoir et ceux qui contrôlent les médias. Quel bras de fer quand le pouvoir a aussi le monopole de la violence économique. Non, il n'y a pas ce n'est pas un bras de fer. Un bras de fer, ça suppose deux bras faits du même métal. Or, face à cette violence, à cette puissance, ben, il n'y a que des citoyens, il n'y a que le nombre, il n'y a que le peuple, il n'y a que la multitude, il n'y a que la parole, il n'y a que les idées, il n'y a que les slogans, il n'y a que des mots peints sur des pancartes ou sur des banderoles. Il y a aussi ce moment où ce qui est un événement passe, glisse doucement dans l'histoire. Et on va le voir là avec ce qui vient de se dire en traversant les Landes. On fait référence à l'histoire plus longue de la région. On fait référence aussi à l'histoire plus profonde de ce pays. C'est tout qui est réveillé, qui s'est réveillé et auquel on fait référence dans ce nouvel épisode de la lutte contre la contre-révolution ultralibérale qui s'est installée depuis une trentaine d'années. C'est cet épisode-là que nous sommes en train de vivre. La lutte va s'étendre, est-ce qu'elle va s'approfondir, est-ce qu'elle va se fatiguer, s'essouffler ? Nul ne peut le dire. Nul ne peut dire comment on appellera ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'on appellera ça la révolution d'octobre ? Allez savoir. Pour le savoir un peu mieux, en tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser,
faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires. Nos sociétés, c'est fou comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
C'est pas mal quand même, non? Il y a du monde.
Oui, c'est pas mal, oui, oui. Je sais pas s'il y aura autant de monde, mais il y a quand même du monde.
Alors Fillon, il récupérera que le mouvement était fini.
Oui, ça y est, tous d'ailleurs, c'est fini. Mais depuis le début, ils veulent que ça soit fini. Tout, à chaque manif, il dit le mouvement s'essouffle. Ils ont toujours dit ça. Magne Pont, c'est toujours resté à peu près constant. Peut-être aujourd'hui, ça va baisser un peu, mais bon. Il faut des vacances, il faut des pauses un peu pour mieux repartir.
C'est encore gros, quoi. Ça m'impressionne. Tu vois, ce matin, j'étais sur le blocage avec des copains de la plateforme de Norbert d'Entresangles. On était une centaine.
Donc un transporteur.
Voilà, un transporteur. On bloque les marchandises et ils y sont, là. Et on arrive à la manif et il y a encore énormément de monde. Bon, mais, moi, je suis explosé, crevé, quoi. Je veux dire, j'en peux plus. Et ça te rebooste, quoi. Voilà, donc là, on est poussé, quoi. Voilà.
On est poussé, ne pas plier, on a entendu ça partout. En France, hier, toute la journée. Et là, on l'a entendu à Bordeaux. C'est évidemment que c'est crevant, tout ça. C'est crevant, c'est épuisant. Il y a des problèmes de finances, bien évidemment, malgré les soutiens aux caisses de grève, malgré la solidarité. Voilà, c'est quand même des journées de salaire perdu, et à la fin du mois, c'est pas seulement qu'on se dit bon ben le mois prochain, ben, voilà, on va bouffer des nouilles, c'est que il y a les échéances, il y a les traites à payer et qu'on peut pas tenir indéfiniment. Voilà la réponse à faire à ceux qui observent de très près le moment où le mouvement décline en se léchant les babines ou en cherchant des fissures et des brèches dans le front saint. Bien sûr qu'un mouvement connaît sa fin, mais c'est la marche qui reste le plus. Pensez, parler avec ceux qui ont vécu des moments comme le CPE il n'y a pas si longtemps, ou la réforme de Vaquet, ou mai 68, enfin toutes ces... On se souvient plus du mouvement que de la fin, que de la chute. Oui, il y a eu les accords de Grenelle, mais on se souvient beaucoup plus du mouvement, de la mobilisation, de tout ce qu'on a appris à ce moment-là, de toute l'émotion, de tout ce plaisir de la lutte que beaucoup ont découvert, sont en train de découvrir, des jeunes notamment. C'est tout ça qui... Et tout ça s'inscrit évidemment dans la longue histoire de ce pays. C'est une vieille histoire française qui, là, renaît de ses cendres ou de ses braises, allez savoir, braises parfois inaperçues par beaucoup, mais qu'on a vu hier matin à Bordeaux, parce que les manifs dans ces villes là c'est le matin, et dans la manif il y avait Antoine Chao.
Alain Delmas, ça plie pas à Bordeaux?
Mais ça plie pas à Bordeaux, ça plie nulle part ailleurs d'ailleurs. À grand renfort de médias, on nous a bassinés sur l'essoufflement du mouvement. Malgré la bataille idéologique, il y a encore une mobilisation parce que le mouvement est ancré en profondeur dans les entreprises, dans les quartiers, et refuse globalement cette réforme qui est injuste depuis le début. Quoi.
La prochaine étape de la lutte?
Il y a le Conseil constitutionnel, il y a les voies institutionnelles, mais il y a surtout comment on continue dans les entreprises à discuter avec les salariés, à faire des assemblées générales, à partir des revendications pour continuer à amplifier ce mouvement qui aura forcément des formes diverses. Mais ce n'est pas un problème, ça. La question... Vous savez, quand il y a encore 63% des Français qui soutiennent le mouvement et les formes d'action qu'on a aujourd'hui, ça veut dire que c'est bien au-delà d'un coup de colère. C'est vraiment quelque chose d'ancré profondément. Et ça, le gouvernement, ou il fait semblant de ne pas comprendre, ou alors il vit dans un autre monde. Mais là, il y a vraiment un rejet global à la fois de cette réforme et à la fois de la politique du gouvernement, que ce soit sur les services publics, les salaires, enfin, etc., etc. Quand vous voyez des assemblées générales qui se réunissent presque tous les soirs, quand vous voyez des mouvements dans les petites villes, Langon, mais à Marmande, régulièrement, il y a des manifs, ça s'élargit. Ça s'élargit. Pas forcément sur les formes d'action de grève reconductible, mais ça s'agit sur la prise de conscience et la mise en mouvement des salariés. Et nous, ce soir, eh bien, on va organiser un grand bal de lutte, de solidarité et de soutien aux grévistes. Parce que la lutte, d'abord, c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est aussi passer des moments de fraternité. On a besoin de sa fraternité, solidarité, c'est des repères, mais en fait, ça se travaille, quoi. C'est pas spontané dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On a besoin de se retrouver, de passer des moments de fraternité pour aller encore continuer le combat dans les formes d'actions diverses, dans la lutte qui va se poursuivre de toute façon.
Pas grève, il est jeté dans la Garonne.
Ah, les dockers, ouais.
Les jaunes, tu sais, les jaunes, les non-grévistes, il est jeté à l'eau, quoi. C'est arrivé. Mais dans les années 60, bon, maintenant, ils sont plus calmes.
Alors, Sergio, t'es dans la manif ici, t'es dans le cortège bordelais. Qu'est-ce que tu penses de cette mobilisation? Toi qui es un connaisseur en tant que mobilisation, en tant que Bolivien, quand même.
Bah, j'ai vu, par exemple, la mobilisation du CPE en 2006. Je pense, contrairement à tout ce que beaucoup de gens me disent, que petit à petit, il y a un mécontentement qui monte, qui commence à s'organiser, à se solidifier. Et comme mobilisation, je crois que c'est un grand exemple. J'ai vu hier dans les infos qu'il y a des solidarités qui se créent en Belgique, en Allemagne, mais aussi qu'il y a des grèves annoncées pour novembre en Espagne et en Portugal. Donc je crois qu'on vit un moment assez important. Et comme je disais, je suis un peu fier de voir que les gens arrivent à se mobiliser comme ça, malgré que la loi a été votée. Non.
Mais ça justement, quoi, non, ça c'est un ferment supplémentaire de mécontentement populaire. Alors quelques nouvelles de la Bolivie quand même.
On avait dit qu'il faut créer en Bolivie des comités de soutien à la France.
Merci, gracias. Alors la section du bassin d'Arcachon est dans le cortège.
C'est une vraie guerre de classe qui s'est engagée. C'est la guerre de classe et on insiste beaucoup parce que notre peuple, tout le peuple constate que l'insolence des richesses est insupportable.
Ah bah surtout vous êtes bien placés dans le bassin d'Arcachon quand même, la lutte est âpre, non?
Eh bien il ne faut pas croire, hein, parce que derrière la dune et derrière le soleil et le bord de mer... Eh bien, nous, on sait qu'il y a plus de 50% de la population qui a moins de 1200 euros par mois pour vivre. Donc, le bassin, c'est pas un ghetto de riches.
Ce n'est pas qu'un paradis, le paradis du Cap Ferret, quoi.
Voilà, parce que nous, on sait qu'il y a des propositions qui pourraient faire redévelopper l'ostréiculture, la pêche, la forêt, du boulot. Et bon, on est confronté au grand capitalisme qui veut toujours plus de fric. Et on demande aux travailleurs, aux salariés de s'organiser et de rejoindre le Parti communiste. C'est le minimum vital.
Beau cortège quand même, ça ne plie pas, quoi.
Ça ne plie pas. On sent qu'il y a différents mouvements de forces qui vont se réorganiser. Le Parti communiste est très très bien accueilli. Pas au bout de la section du bassin d'Arcachon. On a gardé les outils. Le marteau et la faucille, et les gens sont très contents de s'identifier au Parti communiste. Dimanche dernier, nous étions avec les camarades à Souges. C'était un grand lieu, comme ailleurs, de résistance. La région a beaucoup payé, enfin les militants de la région de cette époque ont vraiment payé. Et c'est notre devoir de relever le défi qu'ils avaient mis à cette époque, d'avoir des idées sur la sécurité sociale, sur la retraite, sur l'éducation. Et c'est notre devoir d'être ici, de manifester pour ne pas perdre et regagner des droits qui nous permettent de vivre dignement. Souge, c'est un des premiers camps où ont été regroupés tous les militants qui étaient repérés par la préfecture, dont Papon à Bordeaux, qui a mis en application le décret Cérol qui interdisait le Parti communiste et qui désignait les militants CGT et communistes comme les pires ennemis intérieurs. C'est un des plus grands camps où les militants ont été tués. On a dénombré plus de 300, mais peut-être que c'était beaucoup plus. Beaucoup d'anciens nous ont rappelé qu'il fallait qu'on relève le défi qui nous était posé parce que c'était une remise en cause des droits qui avaient été conquis de haute lutte.
Le programme du CNR.
Voilà, tout le programme du CNR qui est un objectif de destruction du patronat et du MEDEF et Sarkozy n'en est que l'exécutant.
L'Union locale de Bègles. On va certainement retrouver les camarades du poulailler, donc le bar Le Poulailler où il y a un repère de là-bas si j'y suis.
Ouais, là-bas si j'y suis, voilà.
Le poulailler, oui, c'est nous. Oui,
bonjour,
c'est Le Poulailler.
Le poulailler, là-bas si j'y suis, là.
Alors, oui. Raconte-nous. Le poulailler est dans la manif. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rassemblement, de la mobilisation? Est-ce que ça plie? Est-ce que Bordeaux a plié?
Non. Bordeaux ne plie pas, on plie tout le temps là, on n'arrête pas, les roseaux sont des cons, on ne plie pas plus qu'ailleurs ici. On ne cédera pas, il est question que l'on cède sur des choses qui nous coûtent aussi cher à nous, les salariés. Voilà, t'as Michel derrière. Voilà,
ah, Michel. C'est Antoine.
Ouais.
On s'était vu en 2005 à Saint-Michel, la victoire du non constitutionnel.
La lutte continue depuis 2005.
Ouais.
Mais là, c'est quand même encourageant. Hein. Il y a du monde dans la rue.
Malgré le vote de la loi, ouais. On peut dire qu'effectivement, la bagarre sur l'idéologie, elle est en partie gagnée. Quoi. Ah bah oui, j'espère qu'ils y ont laissé beaucoup de plumes, effectivement. Alors après, comment ça se transforme est-ce que ça va être accaparé par les états-majors politiques, tu sais, ça va constituer les programmes de campagne, peut-être, maintenant. C'est ça qui, à mon avis, c'est ça qui est dangereux. Que maintenant, on rentre dans une espèce de grosse campagne présidentielle 2012. Enfin, en tous les cas, sur Bègles, il y a quand même eu des choses assez originales qui se sont mises en place, avec des espèces d'assemblées générales interpro, qui se sont transmis une espèce d'assemblée de citoyens. D'ailleurs, la casserolade, c'est une des formes d'expression ou de matérialisation de cette nouvelle forme d'organisation. Et voilà, moi je pense que ça, il faudrait qu'on continue à le faire vivre. Voilà.
Et la casserolade, ça vient d'où alors?
Ah bah,
c'est très Amérique du Sud, ça.
Ouais. Parce que c'était... je crois que c'est parti à l'Argentine.
En 2001, surtout,
oui.
Au moment où il y a eu le crack, l'effondrement de l'économie
en
Argentine.
Oui.
Alors donne-nous des nouvelles du repère de Bègles, le poulailler, quoi.
Il souffre, père de Bègles, en ce moment. Bah ouais, parce que on est tous en hyperactivité militante, syndicale, optique. Alors en ce moment, et c'est vrai que pour faire un bon repère, il faut un peu de préparation, tu vois. C'est vrai que là, on est plus dans l'organisation de débats, plutôt que sur des thématiques de fond. D'ailleurs, quand Daniel ou quand vous voulez revenir manger des huîtres, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème.
Merci.
Je me promène pas sans raison, de la Bastille à la Nation. C'est pas pour user mes godasses que je fais le tour du Montparnasse. Les rendez-vous à République, c'est rarement pour faire les boutiques. Quand je dors à l'hôtel de ville, c'est pas pour une nuit tranquille. Je suis un million dans la rue, personne ne s'en aperçoit. Je suis 2 millions qui lui coulent 2 millions, mais où ça? 3 millions, c'est du jamais vu. Qui donc a lancé les enchères? 3 millions à juger vendu pour le promeneur solidaire. C'est pas pour me faire disperser que je me rassemble à l'Assemblée. C'est pas pour me faire arrêter, je continue vers l'Elysée. pas pour écouter ton discours que je grimpe au gris du Luxembourg. C'est pas pour entendre cet air-là que je suis venue jusqu'à l'opéra. Je suis un million, personne ne s'en aperçoit. Je suis 2 millions qui l'ai cru une fois, deux fois, trois fois. 3 millions c'est du jamais vu, qui donc a lancé les enchères. 3 millions as-tu j'ai vendu pour le promeneur solidaire. Je rêve que je garderai mes droits, que j'en gagnerai de nouveau. D'autres en ont rêvé avant moi et c'était pas des rigolos. Quand dans les manifs syndicales, y a plein de gens pas syndiqués, le rêve devient plus général, il peut même se réaliser. Je suis 1 million dans la rue, toi 1 million vraiment tout. Je suis 2 millions qui l'ont cru, ah oui ça y est là, je te vois. 3 millions c'est du jamais vu, 2 millions d'un petit commissaire. 3 millions as-tu j'ai vendu pour le promeneur solidaire.
Donc là, on est devant l'hôpital Tenon, dans le 20e à Paris. Et là, il y a des banderoles un peu partout sur les grilles de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ici ?
Il y a une grève qui a démarré maintenant, voilà, 5 semaines.
Hein, 5 semaines ?
Oui, 5 semaines. Donc, il a commencé par le service d'oncologie et de radiothérapie. Donc, c'est 2 services, parce que les collègues en peuvent plus. Au niveau des conditions de travail, ça fait déjà plusieurs années que les choses sont comme ça. Il y a eu des efforts terribles qui ont été faits par les collègues, que ce soit infirmières, aides-soignantes, secrétaires hospitalières ou agents. Et là, ils n'en peuvent plus du tout. Il y avait eu 3 réunions pendant les vacances qui ont abouti à rien. Donc, elles ont déposé un préavis de grève. Et donc, c'est à partir de là qu'a démarré cette grève qui s'est étendue sur pratiquement l'ensemble de tout l'hôpital. Moi, je suis Patrice Lardeux et je suis infirmier et par ailleurs secrétaire du syndicat CGT de Tenon.
Donc aujourd'hui, vous allez aussi aller à la manif contre la réforme des retraites ?
Oui, absolument. D'autant plus qu'il y a eu plein d'actions qui se sont développées, qui font le lien. Vendredi dernier, on a fait une manif en interprofessionnelle, essentiellement appelée par la CGT et aussi par Sudrail, qui venait en solidarité. Il y avait 1500 à 3000 personnes donc qui sont venues en solidarité à l'hôpital Tenon. Et on est parti en manifestation. On a rejoint le lycée Voltaire. On a eu les lycéens et des profs. Et puis on a été jusqu'à République, où il y avait les cheminots qui participaient à la manif de Paris Nord, de Montparnasse. Donc c'était bien, parce qu'en fait, ça montre que c'est les mêmes problèmes un peu partout, que ce soit en question de couverture sociale, emploi, salaire et retraite. Il y a un lien naturel qui s'est fait entre notre lutte et puis les luttes qui se développent en ce moment.
Là, on va rentrer dans l'hôpital.
Alors une lutte pour des postes d'infirmières, pour des réductions de personnel, mais depuis un certain temps est apparue l'évidence à travers ces privatisations rampantes d'une casse des grands hôpitaux qui est évidemment un acquis, on peut dire civilisationnel. Et il y a un mouvement important. On trouvera le professeur André Grimaldi dans la prochaine émission qu'on fera avec le monde diplomatique, dans lequel André Grimaldi a donné un papier. Il est président du mouvement de défense de l'hôpital public, et avec d'autres nombreux professeurs ou pas, ou personnel hospitalier, ils essayent de se mobiliser pour nous faire comprendre à quel point les grands hôpitaux sont menacés. Et hier, dans la manif, en même temps, bien évidemment, que ces manifestations contre la casse des retraites, eh bien, il y avait ceux qui mobilisaient contre la casse des grands hôpitaux, et c'était les personnels de l'hôpital Tenon de Paris.
Dans le couloir de l'hôpital ?
Oui, une des galeries de l'hôpital.
Et l'hôpital Tenon, alors là, je vois, il y a une chapelle, enfin une église,
oui, bah, c'est un vieil hôpital. Ça, c'est historique. Et bah, il date de 1878. Et il s'appelait l'hôpital de Ménilmontant, donc qui était à l'époque un hôpital ultra moderne en termes de structure. Par exemple, on avait le chauffage central à l'air chaud. Dans les sous-sols, il y avait des petits trains sur des rails pour transporter le linge sale et tout ce qu'il fallait. À l'époque, c'était un hôpital de pointe. Il s'appelle Tenon, du nom d'un chirurgien pendant la Révolution française.
Et aujourd'hui, c'est toujours un hôpital qui a des pôles d'excellence ou...
Oui. Il a des pôles d'excellence, entre autres en urologie et en néphrologie, puisque par exemple le service de dialyse est un des premiers d'Europe. Ouais. Donc c'est là aussi ce qui nous énerve un peu, parce que là on a fermé 2 séances de dialyse sur 3 dans la journée, par manque de personnel. Et là aussi, c'est pareil.
Attention, il y a un lit médical là qui passe.
Parce que là, avec le manque dramatique de personnel, ils sont obligés de fermer les salles. Alors, ça devient obligatoire pour une question de sécurité, mais ça nous inquiète, parce qu'on dit que c'est de fait une diminution de l'offre de soins pour les patients.
Ah, on continue par là, on traverse une autre galerie.
Là, plus loin, là, on va passer devant le service d'oncologie et radiothérapie, donc qui a fait grève, parce qu'en fait, on a un plateau technique qui est remarquable. C'est-à-dire, en termes, y compris de radiothérapie, on est un des premiers centres européens de radiothérapie en termes de matériel, de qualité et de quantité. Il y a un service d'oncologie, c'est-à-dire pour les chimiothérapies, où il y a un service de greffe de moelle osseuse, qui est le premier d'Île-de-France. C'est un pôle d'excellence. L'avenir, avec des médecins hyper compétents. Et par manque de personnel, on est en train de fusiller ce service. Donc il y a une contradiction entre des ambitions qui sont normales et puis les moyens qu'on nous donne. Donc voilà, c'est le cœur de cette grève. Donc on se dit, que va-t-on faire de l'hôpital public ? On veut armer l'hôpital public qui représente Thenon, alors qu'il y a un potentiel énorme. Ça continue encore, il faut prendre l'escalier là.
On traverse la cafétéria.
C'est aujourd'hui, en ce moment, au niveau de l'assistance publique, ils cherchent à séparer deux secteurs. Le secteur hautement productif, c'est ce qu'ils appellent performant, où il va y avoir les capitaux privés qui vont arriver. Par exemple, le centre de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, la fondation de cardiologie, a été fondée sur des capitaux mixtes privés-publics. Il y a un problème quand même. L'hôpital, c'est pas une usine et on fait pas de profit. En fait, un hôpital, fondamentalement, ça dépense. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils organisent une sorte de système de production de soins selon des normes de type industriel, avec une mentalité de type industriel, et avec des indices de performance. Et là où ça sera le plus performant, manifestement, les capitaux vont arriver. Parce qu'en plus, bientôt, développe beaucoup le système mutualiste, et bientôt, seuls ceux qui pourront avoir une assurance complémentaire auront l'équivalent que nous, on a aujourd'hui, avec la Sécu. Et puis tous les secteurs qui seront dits non productifs, qui coûtent cher, les pauvres, les indigents, ou des traitements très très coûteux, etc., ça sera payé par l'impôt. Mais on peut aussi imaginer, comme aux États-Unis, qu'il pourrait se greffer des associations de bienfaisance. Bah, à partir de ce moment-là, on peut, puisque les pauvres, il faudra plus ou moins les soigner. Donc il faut bien qu'il y ait des structures, mais ça sera la charité ou l'assistance de l'État, comme ça se faisait avant.
Mais d'ailleurs, la charité, on le voit déjà. Là, en prenant le métro, je voyais des grandes pubs avec Mireille Dard, Alain Delon pour plus de vie.
Voilà, exactement.
L'association de Bernadette Chirac.
Bah oui, par exemple, exactement. Donc petit à petit, on nous habitue à ce genre de choses qui n'est pas dans l'histoire depuis la guerre, qui n'est pas dans l'histoire en France, puisqu'on avait un système finalement de protection universelle. Et donc là, petit à petit, donc face aux insuffisances, mais c'est des insuffisances qui sont programmées, on dit, ah ben alors à ce moment-là, il y en a qui se proposent, ah ben oui, on va faire une association de type, etc. Mais ça, c'est totalement en opposition avec l'esprit de la Sécu, qui est un esprit de solidarité et d'égalité devant la maladie.
Là, on a monté un escalier dans un tout petit couloir. Oui. On arrive où ?
Ben là, on arrive dans des lots.
C'est comble, là, presque,
oui,
en fait.
C'est des combles. Oui, c'est des combles. Donc là on arrive où il y a toutes les différents co-syndicaux. Donc il y a Sud Solidaire, la CGT, CFDT.
Bonjour. Là c'est la pause déjeuner.
Oui, avant de partir à la manif de.
Et vous, vous appelez comment ?
Anne-Catherine. Ça fait 2 ans que je suis à l'hôpital Thenon. Je travaillais à l'hôpital Saint-Antoine avant pendant 15 ans. Ben, je suis infirmière à l'hôpital de jour de néphrologie. Donc moi, je m'occupe de patients qui viennent pour la journée, pour des bilans post-greffe, parce que Thenon est spécialisé dans les greffes rénales. Ben, pour l'instant, officiellement, il manque 58 infirmières. Quand on ne parle pas des sous-effectifs, là. Hein. On parle du poste vacant. Déjà, il manque déjà ça. Donc,
58 infirmières.
Voilà, déjà 58, sans compter que... Souvent, ça ne suffit pas. De toute façon, une infirmière pour une salle avec 12 ou 15 malades, c'est suffisant de toute façon. Mais il en manque déjà 58. Et pour les aides-soignants, il y en a par exemple pour l'oncologie qui est en grève depuis 5 semaines. Hein, les calculs qui ont été faits, c'est qu'il en manque 14, au moins rien que pour un service.
C'est quoi l'oncologie ?
C'est la cancérologie. Hein, c'est un autre gros service de l'hôpital Tenon. Hein, donc, il y a un vrai problème de bras. Il manque des bras partout. Et dans le même temps, la politique du gouvernement, la politique du ministère, c'est de supprimer encore des postes. Là, l'année prochaine, ils veulent supprimer encore 25 postes.
Sur Tenon ?
Sur Tenon. Donc, y a pas ils n'ont pas envie, parce qu'ils préparent le regroupement des hôpitaux de la paix. Hein, ils préparent...
L'hôpital de l'assistance publique ?
Oui, les hôpitaux, là, on va être regroupés en 11 hôpitaux. Tenon va regrouper avec Saint-Antoine, Rothschild, Trousseau et La Roche-Guyon. Au passage, ils ferment 400 lits, ils suppriment une centaine de postes. Donc ils cherchent du monde, parce qu'ils comptent bien nous redéployer. Donc l'année prochaine, si ça se trouve, aujourd'hui j'étais en effro, demain je serai ailleurs. Mais il y a vraiment, c'est vraiment dans une politique qui est au-delà du problème de Tenon. C'est la politique générale de santé qui est prévue là, hein, qui touche tous les autres publics, qui est de supprimer du personnel titulaire. Hein, et donc pour supprimer du personnel en masse, eh bien il faut fermer des lits, même s'il y en a besoin.
C'est-à-dire qu'on va faire des usines à malades. On va regrouper les malades comme ça dans d'énormes services où ils vont être soignés, mais comme dans des usines, c'est hôpital entreprise à fond. Par exemple, moi actuellement, je suis sur un service, il y a déjà quatre salles d'hospitalisation, mais eux, leur avenir, c'est de faire des services qui fassent 2-3 fois ça, avec une spécialité. Et vous traverserez, mesdames, messieurs, tout Paris parce que vous relevez de telle spécialité, pas de telle autre spécialité. Voilà.
Vous vous appelez comment ?
Catherine, et je suis infirmière aussi.
De toute façon, même si cette fois-là, on les fait pas reculer, de toute façon, nous reviendrons et nous serons des millions. Parce que de toute manière, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. C'est pas possible. Les gens, ils veulent pas ça. Et comme pour la réforme des retraites, ça, on remettra une couche à un moment donné, même si c'est pas cette fois-là qu'on les fait reculer.
Donc on va y aller, là, d'ailleurs.
Ouais.
On y va.
J'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné.
T'as pas réussi à être...
Donc normalement, tu devais pas travailler, non. Tu devais pas être assigné.
Mais je suis assigné d'office.
Voilà.
À l'accueil, en plus, c'est même pas dans mon poste. À l'accueil, c'est-à-dire secrétaire hospitalière. Ben non, apparemment non.
Vous vouliez vous déclarer en grève et...
Je suis gréviste, au fait. J'ai demandé depuis mardi que je suis gréviste, que je dois aller à la manif aujourd'hui, mais je suis assigné d'office.
Donc vous ne pouvez pas faire grâce.
Je ne peux pas abandonner mon poste. Ce qui veut dire qu'il faut que je sois là et je ne fais pas ma fonction d'aide-soignante. Je ne suis pas en salle. Je suis à l'accueil, que je fais du secrétariat.
Normalement, vous êtes aide-soignante.
Et j'ai marqué...
Ah oui, en grève, bouche-trou.
Voilà. Il y a quand même des choses...
Tout à fait. C'est ce qu'on est ici. C'est des bouche-trou. On nous met là où on veut.
Bon, ben, on gueulera pour toi.
Oui. Je viens vous regarder partir. Hein.
Ben voilà.
Malgré que j'ai envie d'être là-dedans, mais ben voilà. Je suis coincée.
En fait, on prend vous,
hein. Ouais. Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Salut, à bientôt. Hein.
Ouais.
Voilà, dans la manif hier à Paris, les personnels de l'hôpital Tenon, les plans de restructuration de la direction de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui prévoit le regroupement de 37 hôpitaux en 12 établissements et la suppression de 3000 à 4000 emplois soignants d'ici à 2012, n'en finit pas de susciter colère et mobilisation au sein de l'ensemble de la communauté médicale. L'hôpital public continue à dépérir lentement au profit du privé lucratif. C'est un combat, c'est une inquiétude. Et les deux étaient hier dans la rue, en même temps que la grande manif d'hier sur les retraites.
Vous appelez comment ?
Nathalie Marchand.
Vous travaillez où ?
À l'hôpital Saint-Louis. Ben là, je suis détachée parce que je suis secrétaire de la CGT.
Pourquoi vous êtes venue alors aujourd'hui ?
Tout simplement parce que les attaques, elles sont tellement énormes, à la fois du point de vue de la santé des agents avec cette réforme de retraite. Vous imaginez une infirmière, ce que ça va coûter. 55 ans, on devait partir. Et bien, ça sera 62 ans. C'est 7 ans d'années supplémentaires. C'est vraiment monstrueux ce qu'ils sont en train de nous faire. Il faut quand même aussi comprendre que plus de 50% de nos ouvriers sont touchés par l'amiante. Et nous, on demandait la reconnaissance pour qu'ils partent à 50 ans pour vivre un peu plus longtemps en famille. L'amiante, il y en a partout, et c'est dans mon hôpital à Saint-Louis qu'on soigne ces cancers-là. Bah, les problèmes qu'on rencontre là dans les hôpitaux, c'est qu'ils sont en train de nous mettre des mesures d'économie drastiques, et donc de fait, on ne peut pas soigner équitablement. Pourquoi ? Simplement parce qu'avec un plan d'économie, il réduit les effectifs, alors qu'on en a besoin de plus en plus. Il nous parle du vieillissement de la population, il nous parle des futurs soins pour la population. Eh bien, si on veut le faire, qui va le faire ? Et là, l'hôpital public, il est plus qu'attaqué. C'est quand même pour l'assistance publique. 4000 emplois en moins qui suppriment. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est 7000, puisqu'ils nous doivent 370 000 jours de repos. Et ça, c'est la réalité du terrain à l'hôpital. Et donc, pour tous ces énarques qui pensent que cette retraite, c'est un bien pour l'économie, moi, je dis, il faut taxer les revenus financiers. Il faut les faire cotiser. Ça ne peut pas toujours être nous qui payons. C'est pas possible. C'est trop injuste.
Marie-Claire Lafont. Je suis infirmière de secteur psychiatrique à Maison-Blanche, mais je suis déléguée syndicale à la CGT depuis des années. Moi, j'ai 58 ans et je me dis que quand je pense même à moi, si je devais retourner dans les services aujourd'hui avec deux infirmières pour 30 malades à mon âge et que je sais qu'il y a des collègues qui vont être amenés à le faire, je trouve ça criminel, quoi. C'est donc la retraite, quand on dit la retraite à 60 ans, c'est pas un luxe, hein. Et quand ils nous disent qu'on va vivre plus longtemps, j'y crois même pas, parce qu'en supprimant les moyens aux gens de se... Eh bien, on vivra pas plus longtemps, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des mensonges, quoi.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la psychiatrie? Les réformes sont en train de passer?
Dans les hôpitaux psychiatriques, mais on le retrouve dans les hôpitaux généraux, c'est qu'on est des effectifs qu'on pas qu'un jour on aurait. C'est-à-dire, on peut avoir une, deux infirmières pour 30 malades, hein. Et en psychiatrie, hein. On fait du gardiennage, au jour d'aujourd'hui on fait du gardiennage alors qu'on n'est plus au temps de l'asile, quoi. Il y a même des services où ils sont obligés, des fois, de réattacher les malades ou de demander aux médecins de donner des médicaments plus forts parce qu'ils ne sont pas en situation de pouvoir s'en occuper correctement. Donc on fait de la régression, une régression sans précédent, en psychiatrie. Et puis là, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la révision de la loi de 90, qui fait en gros des malades mentaux, des délinquants, quoi. Voilà, en gros, il va falloir les enfermer. C'est le grand réenfermement de la population quand elle a des problèmes d'ordre psychologique, psychique, quoi. Mais quand on revoit là, la société comment elle va, ça va avec, quoi. Il y a une atteinte à toutes les libertés. Alors évidemment, en général, les malades mentaux dans une société, nous on dit que c'est un baromètre. On mesure l'évolution d'une société à la façon dont elle traite fou. Eh ben c'est un peu ça, vous voyez, quand on voit comment on traite les malades mentaux, on voit un petit peu à qui on a affaire dans un gouvernement, dans un pays. S'ils traitent comme ça les malades mentaux, ça veut dire que le reste de la population sera maltraitée. Mais on est dans une situation dans laquelle se trouve toute la santé publique. Hein. On réduit les effectifs, on réduit les structures. Bientôt, on s'attend, nous, en fait, on pense que c'est les prémices de l'avenir de la santé, c'est-à-dire la privatisation. On le sent comme ça, la majorité de nos personnels, ouvriers, techniques, sont déjà privatisés.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les blanchisseries, les jardins, tout ce qui, les laboratoires, tout ce qui était du domaine du public est externalisé. Donc bientôt, il n'y a plus que les soins externalisés, c'est-à-dire à mettre au privé, c'est tout. D'ailleurs, on a du privé dans du public, maintenant dans les hôpitaux généraux. Vous avez un hôpital public avec tout le service de chirurgie privé.
Tout le service de quoi ?
De chirurgie, par exemple. Ça choque personne, on appelle ça des partenariats. Vous savez, c'est tout ce qui est de l'ordre de la casse. Ils ont mis des termes dessus qui peuvent apparaître comme progressistes, réforme ou réorganisation, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, derrière, ben, c'est on ferme des lits, on réduit le nombre d'infirmiers. J'ai un ami, un exemple. Sa nièce est allée passer le concours pour entrer à l'école d'infirmière. Il y avait 500 jeunes, donc il n'y a pas la crise des vocations. Il n'y avait que 40 postes. 540 postes, alors qu'il manque des milliers d'infirmiers. Vous voyez bien que c'est une pénurie organisée. Tout est programmé, on le voit bien, nous on le vit au quotidien. Ce n'est pas des erreurs d'aiguillage, ce n'est pas des mauvaises gouvernances, c'est programmé. Donc c'est pour ça que nous on est encore là aujourd'hui. On y sera à chaque fois.
Merci à tous. C'était des reportages d'Antoine Chao et Charlotte Perry. Merci à Michel Leray, à Alain Delmas, à Zaz, à Françoise et Michel du Poulailler, de Bègle, le repère de la base, j'y suis à Bègle. Salut évidemment à Claude. Merci aussi à Patrice, Catherine et Anne-Catherine de l'hôpital Tenon, toujours en lutte. Et ainsi qu'à Marie-Claire et à Nathalie et à tous ceux que nous oublions. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, voir les vidéos tournées par les mutins de Pangée sur les occupations du Gui. C'est particulièrement édifiant. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Nicolas Lepère, Coyenne Guyenne et Franck Adhérer ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien l'avouer. Assisté d'Agnès Bott et Marina Touillez attend vos messages au répondeur de la base si j'y suis, que le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Voilà, on se retrouve lundi à 15h, lundi 1er novembre pour la base si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Je vous laisse pour les infos avec Émilie Defay. Salut!
La grève a été levée dans toutes les raffineries françaises, dont en Loire-Atlantique, la dernière encore en grève, vient à l'instant de suspendre le mouvement un peu plus tôt dans l'après-midi. C'était au tour de Fézin et Grandpuy de faire de même, comme ce matin Dunkerque, Gonfreville et La Véra. Les 12 raffineries françaises sont donc maintenant en état de marche, ce qui ne veut pas dire qu'elles fonctionnent toutes, puisque certaines encore sont privées de pétrole brut par le conflit qui perturbe au dépôt pétrolier de Fos-la-Véra au terminal pétrolier. Celui du Havre, en revanche, a été débloqué ce matin. Alors au moment où le travail reprend, Total fait ses comptes. La grève lui aura coûté 100 millions d'euros, estime son directeur financier. Mais la grève ne s'arrête pas partout pour autant. Elle continue notamment de traitement des déchets d'Ivry-sur-Seine. Des actions surprises plus spontanées également se poursuivent. Opération escargot ou gratuit sur les routes, c'est le cas notamment en ce moment au sud de Nantes. Malgré tout, Nicolas Sarkozy a confirmé aujourd'hui qu'il tient la loi, tout en affirmant avoir entendu les inquiétudes des Français. Le président de la République est également revenu cet après-midi sur le message de menace adressé à la France par Ben Laden. La France ne se laissera pas dicter sa conduite par des terroristes, a-t-il assuré. Nicolas Sarkozy qui s'exprimait à l'issue du sommet de Bruxelles où les dirigeants européens se sont mis d'accord pour renforcer la discipline budgétaire. Les pays dont les dérives budgétaires représenteraient une menace pour l'euro seront sanctionnés. Les 27 ont également approuvé le principe d'un changement du traité de Lisbonne afin de permettre à la zone euro de mieux résister aux crises financières. C'est l'heure des sanctions pour le chef du service cardiologie de l'hôpital de Metz. Il a été suspendu et fera l'objet d'une procédure disciplinaire. Décision de l'Agence régionale de santé suite à la surmortalité importante constatée dans ce service. Une mission d'expertise évoque des actes chirurgicaux non indiqués, voire franchement délétères, qui ne correspondaient à aucune recommandation sanitaire. Le service avait été fermé il y a 15 jours. L'hélicoptère français disparu dans l'Antarctique a eu un accident. Des débris et 3 corps ont été repérés par un avion australien à l'endroit où l'appareil avait déclenché sa balise de détresse en terre à Delhi. 4 personnes, membres de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, se trouvaient à bord. Selon les aviateurs australiens, il n'y aurait pas de survivants. Échange de tirs ce matin entre les deux Corées. Une fusillade a éclaté à la frontière entre le Nord et le Sud pour une raison encore inconnue. Des soldats de Corée du Nord ont tiré en direction de leurs voisins du Sud qui ont immédiatement répliqué. Pourtant, ces derniers temps, les relations entre les deux pays s'étaient plutôt réchauffées. C'est un incident qui aurait pu avoir de graves conséquences. Une rue s'est effondrée la nuit dernière à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne suite à la rupture d'une canalisation. Une voiture et un arbre ont été entraînés dans le trou qui fait tout de même 30 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur. Heureusement, personne n'a été blessé. Cette rue très fréquentée devrait être coupée pendant plusieurs jours.
L'atelier Vincent Josse.
Patrice Chéreau aime les visages et les corps, ceux des acteurs et ceux qu'ont dessiné, peint, photographié les artistes.
Dans l'exposition, j'essaye de juxtaposer des tableaux jusqu'à ce qu'ils naissent. Du récit entre ces tableaux, entre ces corps et ces visages.
Le metteur en scène est l'invité du Louvre pendant 3 mois. Il présente du théâtre, de la danse, du chant et des expositions.
Boyonneau, Patrice Chéreau.
Patrice Chéreau. Non.
Rendez-vous demain dans son atelier du Louvre.
Dès 19h20.
Yes.
France Inter et le Théâtre de la Ville présentent du 3 au 13 novembre avec le Festival d'automne à Paris deux programmes de la Merce Cunningham Dance Company. Quatre pièces pour parcourir et célébrer un demi-siècle de danse du maître américain. The Antique Meat, qui marque sa première venue en France, à Roaratorio, une œuvre jamais présente à Paris, qui compose à elle seule le second programme. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Émilie. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je vous propose pour commencer de feuilleter Diapason comme chaque mois, là on est un peu en avant, du mois de novembre qui est déjà sorti et la superbe photo de la superbe Hélène Grimaud qui nous dit « J'ai apprivoisé ma violence ». On a déjà entendu le dernier disque d'Hélène Grimaud, ne serait-ce qu'hier par exemple, il y a plein d'autres articles évidemment sur Kérubini, redécouvrir ce compositeur, le pianiste Samson François, mystérieux et génial, plein de chroniques bien sûr, Peter Brook, fameux homme de théâtre, et on a aussi Kreisberg, Yakov Kreisberg, chef d'orchestre montant, on peut dire, Patrice Chéreau, dont on vient de parler dans la petite bande-annonce que vous avez entendue, et puis évidemment, comme toujours dans Diapason, des essais sur les amplificateurs et toutes sortes de choses qui nous procurent du joli son, du beau son même. Pour commencer, un extrait de l'intégrale des concertos de Mozart par Christian Zacharias, ce grand pianiste qui mène aussi l'orchestre de chambre Progress dans cette proposition de toutes les pièces concertantes de Mozart pour le piano. Et là, on se régale avec, par exemple, le 14e concerto qui est d'une luminosité tout à fait inhabituelle, dans une tonalité pourtant un peu délicate, demi-bémol, donc c'est pas franchement sonore pour certains instruments, pour les cordes notamment. Mais il construit là quelque chose de très civilisé, en même temps passionné, un modèle du genre, pour tout dire. Allegro ma non troppo. Thank you. Allegro Manantropo, pas trop vite, du... Mais...